Voilà, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Aggredisci.
Passata forte. Che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Venose fattifiso. Come fattifiso.
Et bonjour, bienvenue dans Cinémascope pour cette nouvelle année de cinéphile qui commence, 2024 en 24 images secondes. C'est un peu comme ça que nous allons essayer de nous la jouer, ça commence pas mal. Je ne suis pas tout seul. Julien est venu nous rejoindre ici à Fréquence 7. Bonjour Julien.
Ben bonjour Olivier.
Ainsi que Didier.
Bonjour, bonjour Didier. Tout le monde.
Voilà, alors nous commençons assez rapidement parce que le menu est un petit peu façon Dodin bouffant. Nous, c'est les Oscars ici. On va distribuer les Oscars parce qu'on a plein de films à envisager. Didier, dans un premier temps, est allé voir Perfect Days, le dernier opus de Wim Wenders. On avait vu dernièrement le bruit du temps. Sur Anselme Kiefer, qui était une petite merveille. On a vu ça aux rencontres. Là, c'est une fiction, Perfect Days. Il retrouve Tokyo. Eh bien, on entend déjà un petit peu ce que ça dit.
Just a perfect day. Drink sangria in the park.
平山さんって 結婚してないですよね? 寂しくないですか?
Start we go home.
お疲れさん!
おじさん!
Des jours parfaits. Que nous raconte Wim Wenders?
Et Wim Wenders donc revient avec un grand bonheur à la fiction qu'il avait un peu délaissée ces derniers temps pour ne plus s'intéresser qu'aux documentaires. Et c'est vrai que ces dernières fictions étaient relativement loin quand même de la qualité de ses premiers films. Et là, tout d'un coup, on redécouvre vraiment le Wenders qu'on aime, le Wenders de Alice dans les villes, de Au fil du temps, de tous ces films qui nous ont fait rêver d'une façon un peu zen à l'époque. Et là, zen, on est en plein dedans puisque le personnage principal est un quadragénaire tokyoïte dont le métier est d'entretenir les toilettes publiques de Tokyo. Il a un petit parc avec sa petite voiture. Alors on pourrait dire que c'est misérabiliste, que chez Ken Loach ce serait quand même quelque chose du sous-prolétariat et tout. Et là, pas du tout, du tout. Il est tout à fait heureux de faire ce métier-là. Il est extrêmement méticuleux. Alors c'est un personnage très solitaire, qui ne parle que très peu et que pour dire des choses essentielles, ce qui nous change un peu de l'époque. Voilà, je crois que dans tout le film, il doit avoir une trentaine de phrases et pas des tirades extrêmement longues. Et le soir, lorsqu'il a terminé son travail, il va boire un verre dans le même café, il va faire ses petites affaires un peu partout, la lessive dans la laverie, etc. Ses grandes passions sont très simples, la lecture, la musique et en particulier le rock des années 70. Alors on a une bande son avec Lou Reed qu'on a entendu dans le film Annonce, Patti Smith et j'en passe, et des meilleurs qui rythment vraiment le film. Et sa troisième passion, c'est les arbres, qu'il n'arrête pas de photographier, de classer. Et évidemment, on va s'apercevoir que ce personnage extrêmement zen, extrêmement en phase avec la vie, ben, comme tout le monde, il a quand même des failles quoi, qui vont arriver, mais qu'il surmonte systématiquement grâce à ces tout petits riens. Et ces petits riens de la vie, c'est aussi le gamin qui va croiser, qui sort d'une toilette. C'est aussi une jeune femme qui mange un sandwich sur un banc. C'est juste un regard, parfois avec des gens qu'il ne va même pas, avec qui il ne va pas échanger une phrase, des choses comme ça, mais tout ça fait partie de cette vie très très intérieure et absolument magnifique. Alors il y a quand même évidemment un scénario que je ne vais pas raconter ici, donc qui a un lien avec ces failles. L'acteur, c'est Koji Yakusho, qu'on a vu chez Imamura, qu'on a vu chez Kiyoshi Kurosawa, voilà, et qui a, avec ce rôle, quand même obtenu le prix d'interprétation masculine à Cannes en 2023, d'accord, s'il vous plaît. Un prix tout à fait justifié, parce que c'est un rôle extrêmement difficile. Alors, certes, il y a peu de texte, mais donc ça veut dire que tout passe par les expressions. Et comme tout est tranquille et que tout est zen, il n'y a pas de fureur, il n'y a pas de choses. Tout est absolument délicat. C'est une petite merveille, ce film.
Tu as piqué un peu ma curiosité, je t'interromps, excuse-moi, en disant que ce monsieur photographie les arbres. La photographie est présente à titre de thème dans le film également ?
Oui, dans une certaine mesure, puisque ce qu'il aime, c'est photographier le soleil à travers les arbres. Donc,
c'est les ombres, plus particulièrement les ombres des ramures arbres.
Et ce sont ses rêves la nuit. Toutes les nuits, ses rêves sont symbolisés par ce qu'il a vécu dans la journée en filigrane un peu, et ces ombres de feuilles, de soleil. Et il a des boîtes de photos. Alors, il a un petit appareil Olympus à pellicule avec les petites cartouches, là, et donc toutes les semaines, il va donner sa cartouche, il en reprend une. Ça, c'est absolument magnifique. Et le plus extraordinaire, je trouve, c'est quand on va quitter le film, la séquence finale, elle est d'une puissance, alors je la raconterai évidemment pas ici, et de toute façon elle n'est pas racontable, c'est vraiment une sensation, mais alors elle est d'une puissance extrême, et on quitte le film avec ça, juste pour dire entre joie et peine, et c'est absolument magnifique. Et là vraiment on retrouve Wim Wenders, qui s'était quand même pas mal égaré dans les films de fiction ces dernières décennies. On retrouve le grand réalisateur qu'on aime.
On entend beaucoup ce que tu dis, effectivement, après les projections, entre guillemets, quand on rencontre des gens qui ont vu ça. Un film qui a presque le niveau d'une expérience spirituelle, d'une certaine manière.
Ah, c'est exactement ça. C'est un film très, très spirituel. Mais il ne faut pas décourager les spectateurs. C'est extrêmement plaisant et reposant à voir, et en ces temps qui sont quand même un peu furieux, un peu troublés et tout, je pense que c'est le film peut-être qu'il faut voir pour faire une pause. C'est vraiment, ça nous amène une pause avec
un film qui fait ralentir. Mais un vrai plaisir, un vrai plaisir de cinéma, à être assis dans son fauteuil, à regarder ce film. Que ça soit la musique, les images, tout ce qui passe, et le rituel quotidien de ce personnage qu'on suit, c'est très très agréable à regarder. Donc
on va profiter de cet apaisement pour ne pas trop bouger. On reste au Japon avec Hirokazu Koreeda, qui nous sert quelque chose, j'ai l'impression, mais j'ai pas vu, de magnifique également. C'est l'innocence que Julien a été voir, et nous on jette une petite oreille.
Mizumi no aru shizukana machi de okita sasai na jiken. それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。
ごめんなさい。
Toi, Julien, qui est parfaitement innocent, c'est-à-dire équitable dans ta critique, que dis-tu de l'innocence d'Hirokazu Koreeda ?
Eh ben, l'innocence, alors déjà revenir un petit peu sur Koreeda, effectivement c'est quelqu'un qui a eu la Palme d'Or il y a quelques années avec Une affaire de famille, et qui a fait plusieurs films en dehors du Japon, alors un en France, et son dernier en Corée du Sud, qui sont pas forcément son meilleur film. Ses meilleurs films, après celui en Corée du Sud est tout à fait agréable à voir, mais qui sont un peu en dessous de ce qu'il avait pu faire, on va dire, au Japon auparavant. Et là, on le retrouve effectivement au Japon. Pour la première fois, c'est un scénario qui n'est pas son scénario. Donc, il s'est adjoint à une personne qui a travaillé avec lui sur le scénario. Et c'est un film qui a eu le prix du scénario, d'ailleurs, au Festival de Cannes. Et c'est un film qui va nous parler, en fait, qui va être centré sur l'enfance. On est dans une école et la mère voit que son fils change, a des problèmes, enfin il se passe des choses et petit à petit on se dit ben voilà, peut-être c'est le professeur ou un ami, enfin voilà, on sait pas exactement ce qui se passe mais en tout cas il se passe quelque chose et au fil du temps en fait Koreeda va nous faire la description en fait du mal-être de cet enfant-là, donc tout le début du film est comme ça, au moins avec un dispositif assez particulier de mise en scène, puisque on va retrouver un petit peu la mise en scène de Rashomon, vous voyez, avec des points de vue différents. On va voir, c'est en trois parties le film, avec le point de vue de la mère, le point de vue du professeur et le point de vue des enfants. Ce qui nous emmène dans plein de choses. Alors c'est difficile de, je vais pas raconter grand chose parce que c'est difficile de raconter dans le détail parce que il y a plein de surprises dans le scénario évidemment. Mais on retrouve Koreeda qui s'est filmé, la direction d'acteur est assez admirable, la direction des enfants est vraiment fantastique. Chaque acteur est vraiment habité et la construction qu'il met en place, voilà, c'est du grand cinéma quand même. On retrouve le Koreeda d'une affaire de famille avec son souci qu'il a toujours effectivement de parler de famille, de parler de l'enfance, de parler. Là, il y a le thème du harcèlement qui est présent, qui est aussi quelque chose d'actualité en fait, en tout cas dans notre société actuelle. Donc du coup, à la fois un film qui va nous parler de sujets de société très très importants au Japon, mais qui sont transposables tout à fait dans notre pays, et à la fois un très très beau film de cinéma avec une mise en scène qui est quand même très particulière et qui est plutôt réussie à mon avis.
D'accord.
Mais oui, très bien.
Voilà, je sais, tu...
Mais non, très, 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 très bien. J'étais en train juste de me ménager une petite liaison différente de celle qui était prévue parce que j'entends parler donc de l'innocence visiblement peut-être remise en cause. La maman est inquiète quand même, hein, visiblement. Et hors antenne, avec Didier, nous avons évoqué un autre film, Un silence. Je crois que c'est avec Auteuil, c'est ça ?
Oui.
Et puis, je ne sais plus qui.
Emmanuel De Vos.
Emmanuel De Vos, magnifique. Et donc, je n'ai pas vu non plus, mais qui aborde aussi un problème autour de l'enfance, de violences faites aux enfants. Et moi, ça m'intéresse un petit peu parce que je cours après un projet radio autour de la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et donc, j'en profite pour le glisser et te laisser parler d'un silence.
Mais glissons.
Glissons. Alors, juste pour terminer, à signaler, il y a quand même il y a Ryushi Sakamoto qui vient de décéder, qui est un des grands, on va dire, qui a fait la musique du film et qui a eu une palme d'or avec Le Dernier Empereur. Donc c'est son dernier film dont il fait la musique. Donc voilà, petit hommage à ce monsieur.
Oui, tout à fait justifié. Merci Julien.
Donc, Un silence de Joachim Lafosse, réalisateur belge, qui est un film belge qui se passe en Belgique. Alors, on se souvient tous de l'affaire Dutroux, ce pédophile puissance 20 ou 100. Ce dont on se souvient peut-être un petit peu moins, c'est de Victor Issel, qui était l'avocat, lors du procès Dutroux, qui était l'avocat d'une des parties civiles, donc d'une famille plaignante, et qui s'est avéré être lui-même un pédophile.
Mon Dieu.
Donc évidemment, ça a eu un très fort retentissement, en particulier en Belgique. Donc le film ne raconte pas l'histoire très détaillée, mais prend sa source dans ce fait divers, on peut appeler ça comme ça. Donc on est lors d'un procès d'un procès très médiatisé dans le film pour pédophilie. On suit cet avocat, donc c'est l'affaire de sa vie, qui va prendre des positions extrêmement fortes contre la pédophilie, etc. Mais on s'aperçoit dans cette grande maison bourgeoise où il vit avec sa femme, donc Emmanuel Devos, l'avocat c'est Daniel Auteuil, leur fils adolescent. Il y a une autre fille plus adulte, plus grande, qui vit ailleurs. On s'aperçoit dans cette grande maison qu'il y a quelque chose de particulier.
Quand c'est un cadavre dans le placard.
Voilà, il y a un cadavre comme dans beaucoup de familles, mais là, un cadavre qui pue vraiment fort, mais on sait pas bien ce que c'est. Et on va découvrir petit à petit, on peut le dire, puisque c'est vraiment quand même au début du film, tous ces secrets. Alors, le film n'est pas justement forcément axé sur le secret qui est relativement vite révélé, secret qui dure depuis une vingtaine d'années, il y a même eu des histoires avec un fils qui n'est plus là, etc., etc., mais sur un silence, c'est-à-dire et particulièrement le rôle de Emmanuel Devos, donc la femme qui sait que le fils aîné a subi des violences, qui sait que dans l'ordinateur de son mari il y a des choses absolument indescriptibles, qui sait tout, mais qui dit rien. Et qui va, et non seulement qui dit rien, mais au moment où ça se révolte un petit peu dans la famille, qui va essayer de contenir les brèches pour garder ce calme apparent.
Cet apparat, oui, tout à fait.
Voilà. Et donc on a deux acteurs vraiment absolument au top. Là, Daniel Auteuil, qui s'était plutôt tourné vers la chanson ces derniers temps, là, revient avec quelque chose de un rôle vraiment extrêmement fort qu'il a, dit-il, profondément touché. Emmanuel Devos, toujours extraordinaire. Et sans faire de jeu de mots, mais en faisant un quand même, je dirais que ce film aurait pu s'appeler non pas un silence, mais Anatomie d'un silence.
D'accord.
Parce que c'est vraiment ce qui... Au scalpel. On va découper ce silence et découvrir tous les cadavres puants à l'intérieur.
Bon, eh bien, on va sortir de cette atmosphère un petit peu lourde avec justement un enfant, une enfant, qui sait s'en sortir toute seule. C'est une bagarreuse, c'est une scrapper, et je crois que nous avons un petit son.
Allez !
George ?
You play it now !
Hi, that's my bike.
We were just making sure that all of these bikes were road safe. Oh, yours isn't, by the way.
What stage of grief are you at now?
I think I'm almost finished.
Yeah, I feel sorry for her.
She'll make it through.
Lovely, though, that she's living with her uncle.
Could you do me one favour?
Georgie's doing great at school, thanks.
Emotionally coping.
We are eating spaghetti bolognese today.
Well, I for one feel reassured.
Oui, c'est un film que nous avons eu la chance de découvrir lors des rencontres des cinémas d'Europe. Rencontre qui avait été quand même marquée par pas mal de films anglo-saxons, The Quiet Girl, le vieux Shane de Ken Loach, etc. Et pour moi, un matin, la chance à 9h de voir Scrapper, un film de Charlotte Regan avec Harry Dickinson, alors qu'on a peut-être en tête en pensant à Sans Filtre, le film de Östlund là qui avait eu avec lequel il a eu la Palme d'Or pour la seconde fois. Donc le mannequin magnifique, c'est Harry Dickinson qui joue le très jeune père, peut-être trop jeune père de Lola Campbell c'est l'actrice qui joue Georgie, une petite fille qui, ayant perdu sa mère, se débrouille toute seule dans la banlieue de Londres. Et on est vraiment dans la banlieue de Londres. Elle s'est arrangée pour éloigner tous les services sociaux, pour éloigner tous les adultes de sa bulle, et elle fait sa petite vie toute seule avec un camarade quand même, joué par, très bien d'ailleurs, par Aline Ozun. Et elle fait sa vie quand son père biologique débarque à l'improviste, il est jeune et il entend bien jouer son rôle de père envers et contre Lola qui jusqu'à présent se passait très bien, de son propre aveu,
de son papa. Alors c'est un film, moi, qui m'avait tout à fait réjoui et qui, du point de vue de la critique, est assez est regardé de deux manières assez contrastées. Un chroniqueur des Midis de Culture sur France Culture, alors déjà la question c'était faut-il aller voir Scrapper ? C'est une drôle de manière d'introduire une chronique filmique à mon avis, faut-il aller voir ce film ? Il vaut mieux parler du film à mon avis. Et le chroniqueur était tout réjoui parce qu'il avait, il avait trouvé que c'était un Sundance film, hein, et il a appris après qu'il avait effectivement reçu le grand prix du film international de Sundance, donc le festival américain du cinéma indépendant. Alors effectivement, on peut accuser ce film de cocher toutes les cases du cinéma indépendant anglo-saxon. Les Inrecuptibles disent à peu près la même chose. C'est un sous-genre, le father-doctor film, le film de père-fille, etc. Je ne sais pas si c'est un sous-genre. Je crois que si c'est un sous-genre, évidemment, nécessairement, on risque les clichés, mais les clichés appartiennent au genre par définition. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir comment le réalisateur gère ces passages obligés d'un genre. Et moi, je trouve que Charlotte Regan les gère parfaitement bien, de manière originale. C'est un film qui est plein de surprises photographiques, plein de surprises scénaristiques. Il y a une entrée presque de la magie dans ce film.
Du conte, je dirais.
Du conte, voilà, exactement. C'est plus précisément le conte qui fait irruption dans ce film. Je vois donc, Didier, que tu l'as vu. Tu peux prendre le relais.
Oui, oui, ben, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un très, très joli film, comme seuls les Anglais savent le faire, ouais. Justement, sur l'enfant, sur l'adolescence. C'est aussi un film sur le deuil. Qui est quand même relativement présent, oui. Chez cette petite fille qui a perdu sa mère. Et là où c'est pas trop cliché, je trouve, et je trouve ça très très intéressant, c'est justement la relation père-fille, puisque le père, si quelqu'un qui arriverait au milieu du film et verrait une séquence comme ça, c'est plutôt le grand frère, quoi. En termes d'âge, donc ce couple était extrêmement jeune. Et cette jeune actrice qui joue Georgie à 12 ans, elle est absolument extraordinaire. Elle éclate sur l'écran quand elle va... Parce que bon, il faut quand même le dire, elle survit de petits larcins, comme
petit
trafic de vélo avec son copain. Il faut bien vivre. Et ce qui est très intelligent aussi, je trouve, c'est de ne pas avoir placé cette histoire dans une banlieue pourrie. C'est une banlieue ni bourgeoise, ni sous-prolétaire, c'est une banlieue normale, entre guillemets, et tout ça fait énormément de qualité, oui. pour ce film, avec de très très beaux personnages.
Une critique disait d'ailleurs que le film était filmé à hauteur d'enfant, je ne crois pas, je crois que les adultes sont effectivement, c'est l'histoire, hein, viré largement du film, mais c'est filmé, je trouve, avec le regard de la réalisatrice qui prête ses yeux parfois effectivement à Georgie, mais c'est un film qui effectivement assume complètement le regard d'un réalisateur sur une banlieue.
Absolument.
Effectivement, et je trouve que, enfin moi, ça, j'avais été ravi de voir ce film à l'époque aux Rencontres. On a un peu de temps encore.
Juste dire que quand même, il y a quand même des notes d'humour dans le film.
Très
c'est
drôle.
Pas du tout un film misérabiliste, loin de là.
Non. C'est un film qui émeut par moments et est très drôle à d'autres moments. Et en particulier, Harry Dickinson, qui joue le papa, a un clou dans lui. Enfin, je veux dire, il a vraiment quelque chose pour faire rire. On a un petit peu de temps. Le contrat de départ, c'est qu'on avait droit au moins chacun à deux films. Le deuxième film de Julien, c'est Past Lives. Tu peux nous expliquer ?
Oui, alors Past Lives, c'est un film de Céline Song qui est sorti en décembre, là, il n'y a pas très longtemps. C'est un très beau film également. Alors, c'est les gens qui ont aimé Perfect Days, par exemple, je pense qu'ils vont aimer ce film-là. Alors, c'est un premier film, mais qui est déjà très, très maîtrisé. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait aussi des séries, des choses comme ça, là, la réalisatrice. Et il y a effectivement un chef-op aussi derrière qui est absolument admirable sur ce film-là, parce que c'est l'histoire de deux personnages qu'on va retrouver tous les 10 ans à peu près. Ça démarre quand ils ont 12 ans, en Corée du Sud, et puis 10 ans plus tard, et encore 20 ans plus tard par rapport à cette date. Une histoire d'amour...
vie passée, hein, c'est le...
past life, c'est nos vies passées. Et donc du coup, on va retrouver ces personnages-là. Alors elle, qui émigre de la Corée du Sud, quand elle a 12 ans justement, elle part en fait s'installer à New York, et aux États-Unis. Et c'est un film américain, c'est pas un film coréen. Et lui qui reste en fait, qui grandit, chacun a une vie parallèle. Sauf qu'à un moment donné, ils se retrouvent. Alors dans un premier temps, ils se retrouvent par le biais d'écran, en fait, interposé, donc quand ils ont 20 ans, et puis après, quand ils sont plus âgés, il y a un voyage qui a lieu. Et c'est un vrai mélo qui parle de justement de nostalgie, de ces vies passées, des vies qu'on aurait pu avoir et avec quelqu'un qui ne se sont jamais réalisées. Il y a un autre personnage, c'est son mari, puisqu'à un moment donné, elle se marie, elle fait sa vie, comme on dit, comme lui fait la sienne, il se marie également, mais il se retrouve à certains moments, qui est là. Et il y a une relation, une façon de filmer avec des acteurs qui sont vraiment admirables. Hein, l'actrice principale est vraiment fabuleuse, et qu'on retrouve en fait sur les dialogues sont assez. On rentre dans cette histoire-là et elle nous happe. Et on est touché en permanence, rempli d'émotions, un vrai plaisir de cinéma aussi également. Bon. C'est pour ça que je le rejoins un petit peu à Perfect Days, ouais. Parce que moi j'ai eu à peu près les mêmes sensations. J'ai vu les deux, le premier avant les vacances et celui-là et Perfect Days il y a pas longtemps. Et je me suis retrouvé dans cette sensation commune de bonheur de cinéma et de belles histoires en fait qui sont racontées avec beaucoup d'émotions, de sensibilité, de finesse.
Si j'ai encore un petit peu de temps, et puisqu'on parle de bonheur de cinéma, alors mon deuxième film, c'est Making of de Cédric Kahn. Là aussi, une critique un petit peu contrastée, quoique globalement plus positive que pour Scrapper. Donc ce film de Cédric Kahn, c'est aussi un peu un sous-genre, puisque c'est le film qui raconte la fabrication d'un film. Le classique, évidemment, c'est La Nuit américaine de Truffaut. Alors, on ne peut pas regarder le making-of sans penser à La Nuit américaine. Eh bien, bon, évidemment, la comparaison est compliquée. Enfin, c'est difficile quand même. Hein. On met la barre quand même assez haut. C'est un de mes films préférés, presque, La Nuit américaine. Eh bien... Je trouve que Cédric Kahn s'en sort très bien. On avait eu le livre des solutions il n'y a pas si longtemps, à peu près donc, hein, sur le même thème, comment un film se fabrique, etc. Alors là, on est vraiment en immersion. Denis Podalydès est le réalisateur. Il veut faire un film sur les ouvriers qui se battent pour garder leur usine. Il tient beaucoup à la fin tragique. La production lui explique que ce serait mieux une fin plus sympathique, débat de pognon, etc. Et donc, on voit l'histoire du film qui s'élabore, en parallèle, l'histoire des ouvriers qui veulent garder leur usine, et puis, au milieu de tout ça, les histoires des individus, les histoires d'amour, les histoires de pognon, les histoires de filiation, enfin, etc. Tout ça se mêle, et moi, j'ai retrouvé des choses que j'aime bien chez Cédric Kahn, qu'on avait dans Feu Rouge, par exemple, avec Carole Bouquet d'Aroussin, avec peut-être la fête de famille avec Catherine Deneuve ou la prière. C'est un film qui m'avait bouleversé personnellement il y a quelque temps. Je retrouve plus le nom du personnage de l'acteur principal de Ma prière, mais peu importe. Didier nous avait parlé il y a pas si longtemps du procès Goldman, et donc pour moi, là, on a un monsieur qui fait du bon cinéma et qui, quand il passe devant la caméra, assure aussi un petit peu. Donc voilà, je m'étais dit, un film à défendre, Denis Podalydès royal.
Souleya Yacoub aussi, merveilleuse. Enfin voilà. Donc
il a une très belle actualité, Cédric Kahn, parce que le procès Goldberg, pour moi, c'est un de mes films préférés de l'année, de l'année 2023.
Très important.
Je trouve le film admirable. Quoi.
Effectivement, ça confirme donc mon goût pour le travail de Cédric Kahn. On s'était dit que, je sais pas, tant que on a encore un petit peu de temps avant que Sylvain coupe l'eau. Et donc, j'en profite parce que il y avait un peu l'envie chez Julien de parler de Bonnard. Marthe ?
Bah, oui, alors peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, un peu mieux, mais c'est un film qui est intéressant en fait pour découvrir en fait la peinture du début du siècle. C'est les fauves, hein, je crois, Bonnard ou Nabi. Moi je trouve que c'est aussi un vrai plaisir. Alors c'est plus léger, on va dire, que ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais c'est un film qui est quand même assez intéressant à ce niveau-là, avec des acteurs qui sont toujours plaisants à voir. Donc du coup, voilà, il y a Vincent Macaigne, mais il y a aussi également comment elle s'appelle. Je pensais pas en parler.
Non, je suis désolé, Julien.
Voilà. J'oublie tout là. En tout cas, c'est un film que je pense qu'il faut avoir. Mais je crois qu'il y a un de nos collègues qui voulait en parler. Il y a René qui voulait en parler et qui reviendra la semaine prochaine.
On en parlera en deuxième semaine.
C'est un film très intéressant aussi. Voilà.
Oui, Didier.
Tout petit mot, deux recommandations.
Non, plus que deux mots, vas-y.
En une minute et demie. Un silence, parce que le film, je crois, va. Non, pas un silence, rien à perdre, pardon. Parce que le film a déjà un peu daté, je pense qu'il va disparaître des écrans, de Delphine Deloger, qui est une réalisatrice de documentaires, c'est sa première fiction, avec Virginie Efira, et qui raconte l'histoire d'une mère aux prises avec les services sociaux, qui est vraiment un film très très fort, très très fort, j'en dirai pas plus.
Virginie Efira, égale à elle-même.
Égale à elle-même, toujours aussi extraordinaire et tout. Et puis, j'y tiens beaucoup, parce que c'est vrai que je trouve que le cinéma de Privat fait un travail très intéressant sur les reprises, pratiquement sur chaque programme, il y a une ou deux reprises, et en ce moment c'est Mon nom et personne, donc un film spaghetti emblématique, voilà, donc sur un scénario de Sergio Leone quand même, et où on trouve deux acteurs emblématiques également, Henri Fonda s'il vous plaît, pas n'importe qui, et Terence Hill, bon, qui s'est quand même perdu beaucoup après dans des films dont on ne parlera
pas.
C'est
son meilleur film.
Mais c'est de très très loin son meilleur film. Bon, il avait un petit rôle dans Le Guépard quand même, mais voilà. Mais donc, si vous aimez les revoir et re-revoir les bons films...
Celui-là en particulier, c'est un film assez... les gens qui aiment le western, c'est vraiment un film culte.
Avec Django et Le Bon, la Brute et le Truand, et voilà.
Bon, eh bien voilà, du patrimoine, on en redemande. Bonnard, on en parlera la semaine prochaine.
Je me suis rappelé, Cécile de France, voilà, qui joue.
Bien sûr.
Allez voir Cécile de France.
qui joue donc Marthe à plusieurs âges de la vie.
Qui est assez incroyable. Non, mais le film est intéressant. Donc, Nabis.
Donc, la semaine prochaine, puisque si tout se passe bien, nous nous retrouverons ici même la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cinémascope. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et une excellente semaine au cinéma. Ciao, ciao.